Est-ce que tout le monde peut devenir patron? C'est la question que j'aborde aujourd'hui dans mon nouvel épisode de podcast. Et si c'est la première fois que tu tombes sur mon contenu, mon nom c'est Stéphanie Frédéric, je suis consultante en entreprise et le sujet qui a été sélectionné aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est vous à travers mes différentes communautés et ce sujet-ci a été choisi sur Instagram. Et la réponse à cette question-là, c'est vraiment complexe et on va évaluer ensemble pourquoi. On va regarder ensemble, premièrement, une anecdote qu'une abonnée m'a partagée. On va regarder la différence entre un patron qui est un entrepreneur versus un patron qui est un gestionnaire. On va parler des compétences clés d'un gestionnaire, justement, des formations qu'il faut aller prendre, des obstacles, puis la réalité qu'on fait face souvent quand on est en charge d'une équipe, quand on est un fameux patron. Puis, je vais répondre finalement à la question initiale de « Est-ce que tout le monde peut devenir patron? » Et je vais vous émettre mes conseils par rapport à ça, si jamais c'est un rôle que vous souhaitez atteindre un jour dans votre carrière. On lance ça? Donc, je vous l'ai dit, la question, elle est complexe parce que pour devenir patron, il y a beaucoup de facteurs, beaucoup d'enjeux qui rentrent en compte, mais notamment les compétences, notamment les opportunités, notamment les formations, puis les motivations intrinsèques des individus à atteindre certains niveaux de gestion. J'ai envie de vous partager justement une anecdote d'une abonnée qui m'a été partagée parce que je trouvais que ça reflétait énormément la réalité de beaucoup de gens qui se retrouvent en gestion. Donc, je vous partage ça. J'ai été gérante d'une boutique qui générait plus $1 million par année. J'avais aucune expérience, encore moins les capacités. J'ai finalement été prendre un café avec mon assistante gérante pour lui offrir qu'on fasse un switch de poste. Ça prend beaucoup d'humilité, mais il faut savoir reconnaître nos forces et nos défis. L'organisation mentale, la pression de performance et la gestion des priorités ne font pas partie de mes forces. Puis, ce que je trouve intéressant dans ce cas-là, c'est que c'est vraiment souvent comme ça que ça se passe. C'est que on se retrouve dans un rôle qu'on pense qu'on va aimer, occuper, et finalement, ben, on se rend compte qu'on n'a pas nécessairement les compétences. Et pour développer nos compétences, ben, il faut être accompagné. Il y a plusieurs façons, je vais aborder le sujet un petit peu plus loin, mais il y a plusieurs façons qu'on peut développer nos compétences. Mais souvent, quand on se retrouve dans un rôle de gestion, sans de formation initiale, ça peut être vraiment envahissant. Ça peut paraître comme une montagne. Puis j'ai juste des félicitations à dire à cette abonnée-là parce qu'elle a eu beaucoup d'humilité. Et ça demande tellement de courage de dire à son assistante « Aïe, aïe, je suis pas capable de faire la job. Peux-tu la faire à la place? Puis peux-tu la faire? Puis me coacher à travers tout le processus-là? » Et dans son cas particulier à elle, c'est une autre entreprise qui était venue la recruter pour venir occuper un poste de gestion au sein de leur entreprise. Et c'est vraiment fréquent. Souvent, on va chercher, puis c'est même recommandé, on va aller chercher des candidats qui ont le savoir-être plutôt que le savoir-faire. Idéalement, ils ont le savoir-être et le savoir-faire, mais comme vous vous en doutez, la main-d'œuvre est une denrée rare. Donc, souvent, on va aller opter pour aller chercher un candidat qui a le savoir-être. Le danger avec ça, c'est de ne pas soutenir ce candidat-là dans son intégration et dans sa formation. Et on se retrouve avec une situation où le candidat qui avait probablement tout le potentiel, parce qu'on est allé le recruter, on a vu beaucoup de qualités en lui, en elle, et on ne les a pas exploitées, entre guillemets. On n'est pas allé aider cette personne-là à développer les compétences. Et malheureusement, cette personne-là se sent ultimement envahie parce qu'elle doit apprendre beaucoup, beaucoup de responsabilités quand on vient en charge d'une équipe. Ça vient avec un lot de responsabilités, puis je vais vous en parler un petit peu plus tard dans l'épisode. Donc, ça, c'est une erreur à ne pas faire. Quand on est un propriétaire d'entreprise et qu'on va chercher une personne clé, parce que le gestionnaire qui est en charge de nos opérations est une personne clé dans notre entreprise, c'est souvent la personne qui va faire que notre entreprise ait du succès ou pas, ben il faut lui offrir la formation nécessaire si cette personne-là n'est pas formée initialement à gérer des opérations, gérer du monde. Il faut l'accompagner. Je vais commencer mon épisode en vous faisant la distinction entre un entrepreneur et un gestionnaire parce que un ne veut pas dire automatiquement l'autre. Donc, premièrement, un entrepreneur, c'est quoi? Un entrepreneur, c'est souvent un visionnaire, un innovateur, quelqu'un qui a une vision à long terme, qui a une idée et qui développe cette idée-là et qui la met en place et qui fait des tentatives pour la monétiser, dans le fond. Un entrepreneur, ça prend énormément de risques, ça crée des produits, des services qui sont uniques et c'est pas tout le temps le cas d'un gestionnaire. Le gestionnaire, lui, va plutôt s'occuper de la gestion quotidienne des opérations et de la gestion des ressources humaines, pas la gestion des ressources humaines comme un spécialiste en ressources humaines. La gestion des ressources humaines, c'est-à-dire le développement de l'humain au sein de l'entreprise. Souvent, le gestionnaire, il va implanter des stratégies, il va donner la direction, mais il va aussi s'assurer de partager et de communiquer la vision de l'entrepreneur ou du propriétaire pour s'assurer que l'équipe atteigne les objectifs escomptés pour assurer la pérennité d'une entreprise. Souvent, l'entrepreneur, lui, va focusser sur la création de la business. La plus grosse distinction entre un entrepreneur et un gestionnaire est le risque financier. Un entrepreneur, ça prend énormément de risques financiers, alors qu'un gestionnaire, beaucoup moins. Le gestionnaire peut accompagner l'entrepreneur à chercher des stratégies pour aller chercher des sources de financement. Par contre, un entrepreneur, c'est lui, c'est ses poches qui sont directement impactées par le succès ou les échecs financiers de l'entreprise. C'est sûr que quand on est propriétaire d'une PME, d'une petite entreprise, souvent on va avoir le rôle d'entrepreneur et de gestionnaire. Simplement qu'on n'a pas encore les ressources nécessaires pour permettre de financer le paiement d'un gestionnaire. Plus l'entreprise grossit, plus l'entrepreneur a souvent avantage à aller engager un gestionnaire pour s'occuper de la gestion quotidienne des opérations. Donc, c'est sûr que c'est pas tout le temps le cas, mais un entrepreneur n'est pas nécessairement un gestionnaire et un entrepreneur ne sait pas nécessairement quelle stratégie mettre en place pour les opérations quotidiennes, ne sait pas nécessairement comment gérer du personnel et c'est pour ça qu'ils ont besoin d'accompagnement des fois parce que c'est pas leur spécialité. Les gestionnaires, souvent, sont formés pour ça, mais pas tout le temps. T'sais, si on prend le commerce de détail, si on prend par exemple des magasins de linge, c'est pas toujours des gestionnaires formés, par exemple à l'université, qui sont en charge des opérations. Ils ont des formations, naturellement, des fois des formations à l'interne, mais c'est pas nécessairement des gens qui ont aussi des formations universitaires. Ça m'amène à vous parler des compétences clés qu'un gestionnaire doit avoir pour gérer ses opérations. Je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, un bon gestionnaire va être la clé souvent du succès d'une entreprise. Et des fois, on a 1, 2, 3, 4, 5 ans, 200 gestionnaires en poste, dépendamment de la grosseur de notre entreprise. Et c'est très important que ces gestionnaires-là aient des compétences clés parce que c'est souvent sur eux que repose le succès et la direction des équipes qui se rapportent à ces gestionnaires-là. Les gestionnaires sont souvent la zone tampon entre le propriétaire ou l'entrepreneur de l'entreprise et les employés. Donc, ils doivent avoir des compétences très démarquées pour être en mesure de faire rouler les opérations de façon optimale. Donc, naturellement, le leadership. le leadership, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, est-ce que tu es capable d'inspirer les gens à suivre la vision de l'entreprise? Est-ce que tu es capable d'inspirer les gens à embarquer dans les objectifs, à embarquer dans l'atteinte de résultats, je m'exprime, j'ai la misère à m'exprimer là. est-ce que tu es capable de walk the talk? Puis ça serait la première erreur souvent qu'on retrouve en gestion, c'est fais ce que je te dis, fais pas ce que je fais. Un leader va walk the talk, va les babines vont suivre, les bottines vont suivre les babines. Ouais, c'est ça. La communication Deuxième compétence clé, est-ce que tu es capable de bien communiquer à l'oral? Est-ce que tu es capable de bien communiquer à l'écrit? Est-ce que tu es capable d'aller pratiquer l'écoute active pour aller cibler, c'est quoi les préoccupations de l'équipe, mais pour aller aussi cibler les opportunités? Parce que souvent, les membres de notre équipe nous donnent beaucoup, beaucoup d'informations et c'est à partir de cette information-là qu'on peut aller chercher ou établir, mettre en place les meilleures stratégies pour permettre à l'entreprise de continuer à se développer, de continuer à se démarquer dans la business. Gestion du temps. C'est sûr qu'un gestionnaire qui est efficace va être en mesure de bien gérer son temps. Quand on gère mal son temps en tant que gestionnaire, quand on montre à nos employés qu'on envoie des courriels à minuit soir, qu'on demande à nos employés de rester jusqu'à 7 heures le soir alors qu'ils sont supposés d'être là jusqu'à 5 heures, bien, ça demande des grandes, grandes lacunes et ça a un impact direct sur l'équipe et sur leur motivation. Donc, gestion du temps, c'est vraiment très important. C'est une compétence clé quand on est un gestionnaire efficace. Prise de décision, d'être en mesure de voir les différentes perspectives pour prendre des décisions qui sont des fois très difficiles. Donc, il faut voir l'impact à court, moyen et long terme de nos décisions. Et des fois, ça implique d'avoir des conversations difficiles, d'où la compétence de communication, d'être en mesure de communiquer avec bienveillance, mais de communiquer de façon claire c'est quoi les attentes et les objectifs. Capacité à déléguer. Si on veut avoir une équipe qui est efficace, qui est performante, il faut les déléguer certaines tâches pour permettre à nos employés, premièrement, de se sentir autonomes et de leur permettre aussi, par le fait même, de développer leurs compétences à eux. Quand tu es un bon gestionnaire, les opérations roulent, que tu sois là ou pas. Si tes opérations ne roulent plus quand tu es absent, il y a quelque chose que tu fais mal. Il y a quelque chose dans ta gestion qui ne fonctionne pas. Ça se peut que tu sois en développement, ça se peut que tu sois un nouveau gestionnaire et que tu es en train d'apprendre. Mais la capacité à déléguer, c'est vraiment quelque chose que tu dois apprendre rapidement, que tu devrais mettre dans ta gestion les priorités de compétences à acquérir, parce que si tu ne délègues pas, tu montres à ton équipe que tu n'as pas confiance en eux, tu montres à ton équipe que tu n'as pas envie qu'ils développent leur performance, leur compétence, excusez-moi, tu démontres à ton équipe que tu ne veux pas nécessairement qu'ils aient leur propre autonomie. Et ça, c'est très démotivant pour des employés. Capacité à déléguer, j'ai nommé esprit d'équipe, adaptabilité. Hey, adaptabilité, ça, c'est clair que c'est une compétence que tu dois avoir quand tu es un gestionnaire, quand tu es un entrepreneur aussi, parce que mon Dieu, qu'il y a tout le temps des situations nouvelles qui se manifestent quotidiennement. Et si tu es inconfortable avec le fait que tu dois t'adapter à certaines situations, tu vas rusher, mon ami. Si tu occupes un poste de gestion, tu vas trouver ça rock'n'roll. Le monde est très changeant. Le monde des affaires est très changeant et les individus, les membres de notre équipe changent constamment. Nos partenaires d'affaires, nos clients, nos fournisseurs, nos financiers. Ça nécessite toujours d'adaptation. Il faut développer une certaine aise avec ça. Gestion du stress, parce que si tu ne sais pas trop comment gérer ton stress, ben ça a des répercussions, encore une fois, directes sur ton équipe, mais ça a des répercussions directes aussi sur toi, ton bien-être, ta santé mentale. Donc, il faut que tu développes des outils pour pouvoir gérer de façon efficace sans nécessairement avoir des répercussions sur ton bien-être à toi. Équilibre, connaissance de l'industrie puis compétences techniques. Ça, vous voyez, je vous le dis à la fin, à la toute fin, parce que le savoir-faire, ça se développe. Connaître une industrie, tu peux facilement le développer. Ça, je dirais, en termes de critères pour un gestionnaire efficace, bottom line. Donc, comment qu'on développe notre leadership? Si on veut développer un gestionnaire efficace, qu'est-ce qu'on fait? Bien, premièrement, tu peux participer à des programmes de leadership. Il y en a une tonne qui sont offertes en ligne. Tu peux lire. Si tu es un autodidacte, tu peux lire des livres, tu peux lire des articles sur le leadership. Ça peut t'aider à avoir différentes perspectives, puis à développer ton intérêt, puis à voir qu'est-ce qui est fait ailleurs. Voir aussi c'est quoi les autres styles de gestion, parce que des fois, on a un style, mais notre style varie selon l'environnement dans lequel on évolue. On peut aussi apprendre en observant des leaders qui sont inspirants. Donc, si tu as quelqu'un au sein de ton entreprise, c'est pour une grosse entreprise, il y a plusieurs gestionnaires, tu peux apprendre en observant un leader qui t'inspire, mais tu peux aussi observer un leader qui t'inspire à travers des vidéos. Rien t'empêche de faire ça. Moi, il y a un leader que j'aime beaucoup, Gary Vee, j'aime ça l'observer parce que je trouve que de la façon qu'il s'exprime est tellement transparent, j'adore. Tu peux aussi apprendre sur le tas. Donc, en prenant des responsabilités de leadership, même si tu n'as pas les compétences, c'est comme ça que tu vas les développer, c'est essai, erreur. Tu as beau lire tous les livres du monde entier, si tu ne vas pas sur le terrain essayer de mettre en application tes acquis, tu ne deviendras pas un leader efficace. Il faut que des fois, tu te pètes la gueule. Il faut des fois que tu fasses des essais parce qu'il y a des choses qui fonctionnent avec certains types de personnes, mais il y a des choses qui fonctionnent dans certains types d'environnement, dans certains types d'entreprises, puis il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Et la seule façon que tu vas savoir qu'est-ce qui marche, c'est d'aller là, sur le terrain, puis d'essayer. Ça, ben, c'est trippant. C'est vraiment trippant, puis c'est le même que tu vas développer ton leadership. Si tu as envie de développer ta communication, mais tu peux prendre des cours de communication. C'est une très bonne façon de développer différents styles de communication qui nous permettent de s'adapter à différents humains qu'on a devant nous. Tu peux pratiquer communication écrite, communication orale. Je sais pas si tu as déjà vu ça. Moi, en tout cas, dans ma carrière, puis ce qui a été tellement formateur dans mon développement, c'est que j'ai eu des gestionnaires avant même que j'occupe un rôle de gestionnaire qui me disait, donc on parlait d'un sujet X, puis là je disais, OK, mais qu'est-ce que je fais dans telle situation? Puis là, mes gestionnaires me disaient, roleplay! Puis là, il fallait que je pratique on the spot avec ce mentor-là, qu'est-ce que je répondrais ou comment j'aborderais la situation. Donc, des roleplay, de mettre en pratique un peu, ça nous permet de développer des réflexes pour quand une situation X se manifeste devant nous. Travailler l'écoute active. Hey, ça, c'est difficile pour certains gestionnaires parce que quand on devient boss, on a l'impression que j'ai tout le pouvoir, puis ce que je dis, c'est toujours la solution magique, c'est toujours ce qui est meilleur. Puis on oublie d'écouter nos employés et nos employés ont souvent de très bonnes idées. Donc, pratiquer l'écoute active, pas écouter juste pour répondre, mais écouter pour comprendre ce que notre employé nous dit. Parce que quand on peut faire des miracles, plus qu'on a de perspective, plus on est capable de prendre une décision qui est alignée avec la direction qu'on veut prendre pour notre équipe. Et après ça, on peut la communiquer puis amener notre équipe à performer. Mais pour ça, il faut écouter! Si tu as envie de pratiquer ta gestion de temps, ben il y a plein d'applications maintenant qui sont offertes. Donc, plein gestion de temps, c'est vraiment... On vit tellement dans une ère qu'il y a une tonne d'outils. Les Google Calendar, les Asana de ce monde. Donc, tout ce qui est gestion de temps, c'est vraiment cool. Prise de décision, tu peux utiliser des outils comme analyse SWOT. Je vais essayer de faire la traduction. Strength, weakness, opportunity. Puis là, je sais plus c'est quoi le T, mais c'est menace. Donc, une analyse SWOT pour vraiment comprendre c'est quoi les enjeux de l'entreprise pour prendre une décision qui est éclairée. Capacité à déléguer. Rappelle-toi toujours que tu peux déléguer sous forme de compétences, sous forme de temps et sous forme d'intérêt. Donc, tu peux tout le temps, mais en fait, sous forme de temps, sous forme de charge de travail et sous forme d'intérêt. Donc, pratique la délégation. Esprit d'équipe, inclus les gens, mets en place des activités. Donc, toutes des affaires comme ça qui vont vraiment aller créer une coopération, une collaboration, si tu veux. Créer une compétition au sein des membres de ton équipe. Fais attention pour être sûr que c'est une compétition qui implique une collaboration et non une compétition malsaine, tu vas aller créer l'effet opposé si tu vas vraiment juste chercher les coques. Si tu as envie de développer toutes ces compétences-là, il y a plusieurs formations que tu peux prendre. C'est sûr que la formation, la meilleure formation complète, si tu veux devenir gestionnaire, est naturellement une formation universitaire. Je vais toujours encourager les gens à aller faire un baccalauréat dans une compétence X, dans un champ d'intérêt X qui les passionne pour aller développer des compétences. Parce que là, c'est pas juste parce que c'est le diplôme universitaire, puis c'est pour ça que je dis le champ d'intérêt qui vous passionne. Quand on va à l'université, oui, la matière, elle est importante. La matière nous donne plein d'outils pour notre coffre à outils. Par contre, ce qui est important, puis ce qu'on va acquérir à l'université, c'est tellement plus que ça. Ce qu'on va acquérir vraiment, c'est la gestion de temps. Être capable de gérer son temps, gérer ses priorités, gérer les délais, développer un sentiment de coopération, donc gérer nos relations sociales, être capable d'aller chercher des personnes clés qui vont coopérer dans nos projets X pour avoir le meilleur résultat possible. On va vraiment aller socialiser en se créant un cercle. On va aller prendre des décisions qui vont être significatives pour notre avenir. On doit s'adapter à différentes situations qui se manifestent. Entre autres, si tu travailles en même temps qu'aller à l'université, il faut que tu t'adaptes selon tes horaires, selon les horaires de l'université, selon les challenges aussi. Si tu as un membre de ton équipe qui ne coopère pas, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi les stratégies que tu peux aller chercher? Donc, pour moi, c'est ça la grosse plus-value de l'université. Oui, c'est sûr que la matière est importante, mais c'est vraiment tout ce qui englobe ces études-là. Maintenant, est-ce que tu peux être un bon gestionnaire sans avoir des études universitaires? Ben oui, c'est sûr que oui. Mais ça se peut que tu te plantes pas mal plus que quelqu'un qui n'a pas fait des études universitaires. Puis, est-ce que se planter, c'est négatif? Pas en tout, parce que quand on a des échecs, quand on se pète la gueule, c'est de même qu'on apprend. Donc, si tu te plantes jeune, ça se peut que tu réussisses, mais ça se peut que non. Puis tu sais, tant que tu as des études universitaires ou collégiales, du moins, moi je le vois comme une clé, comme plusieurs clés. Tu ajoutes plusieurs clés à ton trousseau de clés, c'est-à-dire que si tu veux aller ouvrir une porte, tu as plusieurs clés à saisir, puis il y a plusieurs portes que tu vas pouvoir ouvrir. Si tu choisis de ne pas aller à l'école, c'est bien correct, mais ça se peut que tu aies juste une clé. Puis que quand tu évolues comme un individu, parce que des fois, en fait, pas des fois, dans la vie, on évolue comme personne, bien, ça se peut que nos champs d'intérêt qu'on avait à 19 ans sont très, très différents des champs d'intérêt qu'on a à 30 ans. Ils sont très, très différents des champs d'intérêt qu'on a à 50 ans. Mais si on veut aller chercher le maximum des opportunités dans notre évolution, vaut mieux aller chercher le maximum de clés qui vont nous ouvrir le maximum de portes. Est-ce que tu peux réussir sans? Ben oui, c'est sûr. C'est sûr. Parce que ça se peut que tu sois une personne qui a un bon savoir-être. Ça se peut que tu sois une personne qui est vraiment capable d'aller développer le maximum des compétences. Ça se peut que tu sois une personne autodidacte, que le modèle scolaire actuel ne convient pas nécessairement à la façon dont toi tu apprends. Mais si tu as envie d'aller explorer ou que tu as des intérêts pour les études universitaires et que tu hésites, moi je te dis go for it, même si tu le fais à temps partiel, vas-y, va te chercher ton diplôme pour aller t'ouvrir le maximum de postes. Parce que les postes en gestion, il y en a, puis ça se peut que tu sois un entrepreneur et que tu n'en aies pas besoin, mais les entrepreneurs, je le dis, c'est souvent les gens qui sont à l'aise avec les risques financiers et c'est pas la majorité des gens dans la vie qui sont à l'aise avec ce risque-là et qui ont du succès aussi une fois qu'ils prennent ce risque-là. Fait qu'il faut juste que tu sois conscient de où tu veux aller. Maintenant, ça dépend tout le temps de ton industrie aussi. Ça dépend de plein de facteurs. Plein de facteurs. D'autres façons que tu peux aller développer tes compétences de leader, pas de leadership, mais de gestionnaire, ben tu peux aller chercher des formations en ligne, tu peux aller chercher un coach ou un mentor personnel qui peut vraiment t'accompagner dans le développement de tes compétences. Donc, si, par exemple, tu as des études collégiales, puis que tu as envie de développer une compétence spécifique pour le rôle que tu veux occuper, bien, va te chercher un coach qui va vraiment aller t'aider à t'accompagner à développer ces compétences-là. Une fois que tu es gestionnaire, une fois que tu es en charge d'une équipe, bien, ta formation ne s'arrête pas là. Donc, tu as avantage à toujours mettre à jour tes compétences. Donc, tu peux toujours aller chercher justement des formations en leadership. Tu peux aller chercher des formations en gestion de changement. Tu peux aller chercher des formations en gestion de temps. Tu peux aller chercher des formations en communication. Donc, tu sais, l'apprentissage, la mise à jour des connaissances, c'est quelque chose qu'on fait à vie. Tu sais, parce qu'on est des personnes, on est des humains et l'humain il évolue constamment. Donc, il faut toujours se renouveler. L'industrie, le monde des affaires se renouvelle constamment. Donc, il faut être en mesure d'aller chercher ces formations-là pour rester à jour. Maintenant, quand on est gestionnaire, bien, c'est sûr que une fois qu'on est en poste, ça se fait pas de même. Donc, on va être confronté à certains défis, certains obstacles, entre autres la résistance au changement. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement quand on a un changement de gestionnaire, c'est la résistance au changement. Parce que les gens ont peur de l'impact que ça va avoir sur eux en tant qu'individu, en tant que membre de l'équipe. Donc, c'est sûr qu'ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin d'être rassurés. Donc, il faut être en mesure d'accompagner les gens qui ont de la réticence pour aller baisser leurs barrières. Gestion des conflits. Tu sais, je l'ai dit un petit peu plus tôt aujourd'hui, mais dans la communication, il faut avoir la capacité d'aborder les conversations qui sont difficiles. Et les conversations qui sont difficiles sont souvent en lien avec la gestion de conflits. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident à faire parce qu'on a tous des enjeux personnels qui font en sorte que ça peut être plus difficile pour nous d'avoir une conversation difficile, une conversation courageuse avec certains membres de notre équipe concernant certains sujets. Donc ça, c'est un obstacle qu'on rencontre régulièrement quand on occupe nos premiers postes de gestionnaire, ben, en fait, quand on occupe nos postes de gestionnaire en général, mais c'est très challengeant quand on tombe dans un premier rôle et qu'on n'a jamais eu à gérer des conflits, ça peut être vraiment très, très challengeant. Communication inefficace, c'est un gros obstacle. Le manque d'expérience, si on n'est pas accompagné, comme la personne que j'ai nommée dans l'anecdote, c'était un manque d'expérience et un manque de formation, un manque de soutien qui a fait qu'elle n'a pas aimé vraiment son expérience dans son rôle. Manque de confiance, ça arrive. Des fois, quand on tombe gestionnaire, on n'est pas nécessairement... On était confiant dans ce qu'on faisait. Quand on tombe dans un gestionnaire, même si on était super bon en tant qu'employé, ça ne veut pas dire qu'on est super bon automatiquement en tant que gestionnaire. On tombe un peu compétence à zéro quand on prend en charge notre rôle. Il faut faire preuve de beaucoup, beaucoup d'humilité. Il faut accepter de ne pas tout connaître tout de suite. Et ça, des fois, c'est très, très difficile. C'est un gros obstacle sur notre développement en tant que gestionnaire. Conflit d'intérêts, le favoritisme, ça arrive. Il faut être en mesure de gérer et de jongler avec ça. Gestion des performances. Parce que quand on tombe gestionnaire, c'est plus notre performance individuelle, c'est la performance de l'ensemble de l'équipe. Et si on gère mal avec le fait qu'on est blâmé pour une performance, une mauvaise performance d'un employé, ça peut être très, très challengeant. Ça peut être un gros obstacle à notre réussite. La réalité, c'est que les responsabilités puis la variété des tâches sont énormes quand on est en charge d'une équipe. Et c'est pas tout le temps quelque chose qu'on prend en considération. Quand on applique sur un poste, on a hâte d'être en charge, on a hâte d'être la personne ressource, la personne clé, la personne qui va avoir un impact sur l'équipe, mais on oublie tout le lot de travail qui vient avec et le lot de responsabilités. Et ça, des fois, c'est très difficile. Et c'est pas parce qu'on a un titre puis qu'on a soudainement du pouvoir qu'on a automatiquement le respect des membres de notre équipe. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie quand on occupe notre premier poste. On pense que par défaut, nos employés vont faire tout ce qu'on veut parce que c'est moi qui ai le type, c'est moi le big boss. C'est pas de même que ça marche dans la vie. Ça, c'est une réalité qu'on rencontre quand on occupe un poste de gestionnaire. Donc finalement, est-ce que tout le monde peut devenir patron, à même titre qu'est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? La réponse est non. Est-ce que tout le monde veut devenir patron? Est-ce que tout le monde veut devenir entrepreneur? Est-ce que tout le monde veut devenir gestionnaire? La réponse est non, pas en tout. Il y a des gens qui carburent au défi. Il y a des gens qui carburent hors de leur zone de confort. Il y a des gens qui carburent à vouloir constamment s'améliorer, à vouloir toujours trouver des solutions, à innover, à mettre en place des stratégies. Il y a du monde qui aime ça. Mais il y a d'autres mondes qui ne drive pas à ça pantoute. Il y a du monde qui aime ça être confortable. Il y a du monde qui aime ça être dans routine. Ça ne veut pas dire qu'ils n'aiment pas se développer. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des gens qui aiment ça performer. Ça veut simplement dire que la sécurité, la stabilité, c'est quelque chose qu'ils recherchent beaucoup plus et qu'on retrouve vraiment moins quand on occupe un poste de gestion. Donc, est-ce que tout le monde peut devenir patron? Non, et tout le monde ne veut pas devenir patron et c'est tant mieux comme ça, c'est très bien. C'est sur ça que je termine aujourd'hui. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui a été intéressant et éducatif pour toi qui m'écoutes. Merci d'avoir été au rendez-vous. Si jamais il y a des sujets que tu aimerais que j'aborde, viens me les laisser en commentaire. J'espère que j'ai amené différentes perspectives sur les rôles de leaders qui sont en charge d'équipe et d'opération. Et je vous dis à la prochaine épisode de podcast. C'est tellement apprécié que vous soyez au rendez-vous. Et si vous voulez m'encourager, la meilleure façon de le faire, c'est de partager mes vidéos. C'est comme ça que je me fais connaître. Ces vidéos-là sont gratuites. C'est des outils pour vous à mettre dans votre coffre à outils. Donc, si vous voulez partager, ça va être très apprécié. Vous pouvez venir me suivre sur YouTube, Spotify, TikTok, Instagram, Facebook. J'ai un groupe privé qui s'appelle Ambitieuse et j'ai très, très, très bientôt des outils vraiment intéressants que vous allez pouvoir prendre et mettre en application si jamais vous voulez atteindre des positions de leadership. Donc, merci d'avoir été rendu. Et on se revoit bientôt!